Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC. Il est 4h55, on est lundi matin. Très bon réveil, ça va Élise?
Ça va très bien, bonjour à tous.
Tout va bien, bonjour Géraldine Demory qui est en studio avec nous aussi.
Salut tout le monde.
Encore une fois, ça va être une grosse semaine pour Géraldine, j'ai l'impression. C'est la situation météo qui s'invite à la une avec d'abord les incendies, le Gard, l'Ariège, l'Aude. Vous décrivez ce que vous voyez dans les Pyrénées-Orientales, surtout 4500 hectares partis en fumée, 10 000 habitants évacués, des blessés, un pompier, un civil, la sécheresse et les vents qui attisent les flammes.
Ça attriste. C'est vraiment horrible, quoi. C'est la première fois que je vois un feu aussi important. C'est un désastre. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup. C'est très difficile à vivre, très difficile.
Et vous continuez de témoigner ce matin de ce que vous voyez au 32-16, bien sûr, par écrit et même en photo, si vous le souhaitez, sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Autre front de la météo, la canicule déjà de retour. Vous avez peut-être déjà chaud dans le sud, dans l'ouest du pays. 16 départements en vigilance orange Météo France qui annonce moins chaud qu'il y a deux semaines, mais des températures qui vont quand même atteindre les 40 degrés.
Alors, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières depuis les dernières vagues de chaleur sur votre emploi du temps, sur votre équipement à la maison? Est-ce que vous êtes mieux préparé? On vous attend, on en parle ensemble ce matin au 32-16.
Exclusivité RMC ce matin, là aussi, on attend vos témoignages. Les faillites d'entreprises qui continuent de battre des records. 34 000 défaillances d'entreprises au premier semestre 2026, c'est 5% de plus qu'il y a un an. C'est quelque part un indicateur aussi du contexte dans lequel on est plongé. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez peut-être connu la défaillance, voire la liquidation. Vous composez le 32-16 ce matin, vous témoignez.
Et puis tiens, qu'est-ce qui coule nos boîtes? Qu'est-ce qui pourrait au contraire les aider? Quelle perspective aussi pour beaucoup d'entre vous? C'est un stress quotidien. On vous ouvre l'antenne d'RMC ce matin.
Autre débat ce matin, et vous allez témoigner, c'est sûr. La haut-commissaire à l'enfance qui reçoit aujourd'hui un rapport et des recommandations de la Commission des droits de l'homme sur ces fameux espaces No Kids. On en a déjà parlé, vous savez, les wagons SNCF par exemple qui excluent les moins de 12 ans, les campings ou les hôtels réservés aux adultes aussi.
Et alors selon ce rapport, il faut interdire ces espaces No Kids. On fait disparaître les enfants de l'espace public. Alors est-ce qu'il faut les interdire? Est-ce qu'au contraire, vous êtes client? La commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, est notre invitée à 6h40 dans le morning. Mais le débat, ça commence dès maintenant.
Vous êtes déjà allé dans un hôtel ou
oui,
un resto?
Oui, moi je paye pour ça.
C'est vrai?
Je paye pour le Nokia. Ah,
alors là, je crois que c'est la première fois qu'on va vraiment pas être copain avec Élise.
Ouais, désolé. Hein, mais...
ah ouais, bien sûr, les discriminations et tout, c'est cool. Ouais. On vous attend.
Les vacances sans enfants, c'est super.
Et puis enfin, on va parler de foot ce matin. Alors d'abord, il y a le match Mexique-Angleterre qui touche à sa fin. Avantage aux Anglais. Il reste encore quelques minutes d'arrêt. Vous savez quoi? On va retrouver Edgar Grollo qui est en direct du stade Azteca de Mexico. Salut Edgar.
Salut tout le monde. Quand les matchs se terminent dans le morning, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose de grand généralement. Et c'est le cas ce soir. 3-2 pour l'Angleterre face au Mexique, à Mexico, au mythique stade Azteca. Et les Mexicains qui étaient menés 2-0, puis menés 3-1, sont en train de pousser en supériorité numérique pour essayer d'égaliser et arracher les prolongations. Il reste 6 minutes. L'ambiance est tout bonnement exceptionnelle. Et on va suivre ça ensemble, évidemment, jusqu'au coup de sifflet.
Et on vous retrouve dans un instant, Edgar, dans le morning où il se passe quelque chose de grand. Il s'est passé aussi quelque chose de grand cette nuit, Mathieu, le Brésil qui a éliminé par la Norvège. La sensation Erling Haaland a frappé.
Et puis on va revenir aussi, si vous le souhaitez, sur le match des Bleus samedi soir. Vous êtes peut-être encore agacé par le jeu des Paraguayens, par l'arbitrage. Vous avez peut-être affûté vos arguments pour la machine à café ce matin au boulot. Bon, en tout cas, vous êtes peut-être fier des Bleus aussi, de la qualification pour les quarts de finale. Clément vous attend au standard au 32-16 ce matin. On lit vos messages WhatsApp au 06 12 424 424.
Et puis on continue de jouer. Cette semaine, on joue au mot caché avec ce petit mot qui sort de l'ordinaire et qu'on va prononcer à plusieurs reprises au cours du morning. Si vous l'identifiez, vous envoyez mot au 7-32-16. Et c'est le retour de la machine à café nomade, Mathieu.
Oui, l'Aquila qui vous emmène partout avec vous, en voiture, en rando, à la plage, qui vous sert un expresso. C'est vraiment une machine expresso portable. Elle tient dans la poche. Vous envoyez mot, si vous entendez le mot caché, vous envoyez mot MOT au 7-32-16.
Et à 4h59, c'est l'heure de la météo avec Géraldine Demory. Et de nouveaux départements en vigilance canicule.
16 départements en vigilance orange canicule, hein, près de l'Atlantique, de la Vendée, Hollande, même jusqu'au Lot, et près de la Méditerranée, des Pyrénées-Orientales au Gard, ainsi que le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. À noter que la vigilance jaune a gagné du terrain, hein, aussi jusqu'au bassin parisien. Donc c'est parti pour la troisième canicule de l'année. On attend cet après-midi jusqu'à 39 degrés à Bordeaux, Biarritz, 38 à La Rochelle, Toulouse, Perpignan, Montpellier, 37 à Nantes, 36 à Marseille, 35 pour Paris, Grenoble, 34 à Lyon. Lyon, 32 à Brest, à Nancy, Strasbourg ou Bastia. Et la vague de chaleur qui va se poursuivre toute la semaine. Dans un premier temps, les températures vont encore monter. Demain, on pourrait bien atteindre les 40 degrés entre la Nouvelle-Aquitaine et l'intérieur du golfe du Lyon. Mercredi, on va avoir des conditions extrêmes en Méditerranée avec le retour du vent, de l'air qui va être très sec, très chaud. Et puis ensuite, les températures devraient assez peu évoluer. On va rester sur un plateau haut avec une moyenne de 35 degrés sur le pays. Et pour le moment, on ne voit pas le bout de cette vague de chaleur.
Il est 5h sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 5h, c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, ce très gros incendie dans les Pyrénées-Orientales.
Un feu qui a parcouru 4500 hectares, 10 000 personnes évacuées. La troisième étape du Tour de France adaptée aux flammes. Il n'y aura pas de public dans les 40 derniers kilomètres. La canicule qui s'installe à nouveau, Géraldine vient de le dire, la troisième en trois mois. Les destinations de montagne font un carton, c'est une confirmation ce matin. Et puis la Coupe du Monde de foot, les dernières minutes en ce moment entre le Mexique et l'Angleterre. Les Anglais mènent 3-2.
10 000 personnes ont donc été évacuées ces dernières heures à cause du feu dans les Pyrénées-Orientales.
Oui, c'est le premier très gros feu de l'été. 4500 hectares de végétation donc parcourus par les flammes depuis samedi soir dans le secteur de Trévillac à l'ouest de Perpignan, attisé par le vent, la sécheresse et la chaleur. La préfecture parle d'un feu gigantesque. Alors notre envoyé spécial Rachel Sadoudine confirme à Y-sur-Tête précisément où les habitants ont été évacués.
Au-dessus de nos têtes, un balai constant d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. La fumée envahit le centre-ville, l'air irrespirable pique les yeux de Lina, déjà en larmes.
Ils ont dégagé tout le monde là-bas, la gendarme. Sortez, il faut sortir de la maison, parce que là-bas, la maison, elle brûle.
Sortie de chez elle à la hâte, avec seulement un sac à main, Lina peine à ravaler ses sanglots.
Il ne laisse pas rentrer. Il dit qu'il faut prendre des bus qui sont là. Je pars pas d'ici. C'est ma maison là, je parle pas d'ici.
Une dizaine de bus arrivent pour évacuer les habitants en panique.
Je vais pas aller à Perpignan, moi, il est chien, faut pas les laisser.
Aude habite Y-sur-Tête depuis 26 ans. Elle décrit une scène apocalyptique du jamais vu.
Ça a brûlé juste à côté, du coup ça pète, il y a une voiture qui brûle et ils nous ont demandé d'évacuer.
Vous voyez les flammes depuis chez vous?
Ah oui, moi je les ai vues, ouais. C'est impressionnant, l'odeur c'est insupportable. Attendez.
C'est une ambulance qui arrive pour prendre en charge une vieille femme juste à côté de nous.
Ça va aller madame?
Jusqu'ici retranchée dans la salle municipale, les habitants sont pressés d'évacuer la commune. Masque sur le nez, ceux qu'ils peuvent rejoignent leur voiture pour être accueillis chez des proches. Les autres trouveront refuge dans plusieurs gymnases de la région.
Alors le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parlait de 6 feux critiques en début de soirée avant que d'autres ne se déclenchent, dans l'Hérault et l'Aude notamment. Celui du Gard qui a brûlé 540 hectares de végétation à Lédenon est fixé ce matin. Il y a 7 départements du Sud-Est toujours en alerte maximale pour ces feux de forêt. Ce feu tient dans les Pyrénées-Orientales qui aura une incidence aujourd'hui sur la troisième étape du Tour de France entre Granollers au nord de Barcelone et les Angles côté français, puisque toute la partie française du tracé va se faire sans public, Romain Asselin.
À incendie exceptionnel, mesure exceptionnelle. Pas d'interdiction formelle, mais la préfecture et l'organisation du Tour invitent le public à ne pas se rendre aux abords du parcours, ni même sur le site d'arrivée de la première étape de montagne de cette édition 2026. Caravane publicitaire à l'arrêt sur le sol français. Seuls les coureurs et les véhicules indispensables à l'organisation du Tour pourront rallier les Angles. Une arrivée située à 70 km des lieux de l'incendie, des feux de forêt difficiles à maîtriser, attisés par les flammes et les fortes chaleurs. La préfecture des Pyrénées-Orientales évoque une lutte acharnée, d'où de possibles restrictions supplémentaires d'ici le départ de cette troisième étape prévue au nord de Barcelone à 12h10.
Et c'est le Mexicain Isaac Del Toro qui a remporté la deuxième étape hier à Barcelone, offerte sur un plateau vraiment par son coéquipier slovène Tadej Pogačar, qui a donné l'impression de lever le pied dans la montée finale pour laisser gagner donc Isaac Del Toro.
Et si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, vous nous écrivez évidemment sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos de ce que vous voyez et vous composez le 3216. Vous êtes les bienvenus. Alors en plus des incendies, il y a la canicule qui s'installe à nouveau sur le pays. Quentin.
16 départements, oui, en alerte orange, l'ouest du pays et les départements près de la Méditerranée. Les 40 degrés ont déjà été atteint hier. C'est la troisième vague de canicule en trois mois et en pleine période, surtout de vacances scolaires. si bien que les destinations dites plus fraîches attirent les foules. La preuve est même la confirmation avec Gabriel Laprade.
Au milieu des virages en épingle du Lioran dans le Massif central, Marie-Raymond loue 16 logements, dont un chalet en pierre et en bois. Elle constate un vrai pic des réservations dès que les températures augmentent.
On a énormément de gens, par exemple de Montpellier, qui sont en ville et qui remontent, qui nous appellent au dernier moment pour savoir si ils peuvent venir passer 3-4 jours au frais. Même s'il fait très chaud, on a toujours de l'air. Et si on monte au sommet du plan du Cantal, qui est à presque 1900 mètres, là on a quand même toujours de l'air.
Même écho dans les Alpes, sur les hauteurs d'Isola 2000. Plus de touristes, notamment en raison de la canicule, et cela profite à tous les secteurs d'activité. Virginie Tumortiki est directrice de l'Office de tourisme.
Que ce soit les hôtels qui sont très très remplis ce week-end, les terrasses des restaurants, les activités comme les loueurs de vélos. En tout début de saison, c'est pas tout le temps comme ça, donc ça nous montre bien qu'il y a une affluence plus importante que d'habitude.
Une saison estivale qui démarre donc sur les chapeaux de roue, alors que le pic d'affluence à Isola 2000 est normalement atteint autour du 14 juillet.
C'est l'information de la nuit, c'est un véritable coup de tonnerre. Cédric Jubilard qui reconnaît sa culpabilité dans la disparition de sa femme Delphine Jubilard en 2020 dans le Tarn. Le journal La Dépêche écrit ce matin et bien que Cédric Jubilard a remis une lettre manuscrite ces dernières semaines à un de ses avocats dans laquelle il reconnaît formellement sa responsabilité à 2 mois du procès en appel qui est censé se tenir dans cette affaire et alors qu'il nie catégoriquement les faits jusque-là.
Il est 5h05 sur RMC. Nous sommes à la veille du jugement au procès en appel des assistants parlementaires européens du Front National.
Oui, autrement dit, c'est demain que Marine Le Pen va savoir si elle peut ou pas se présenter à l'élection présidentielle l'année prochaine. En attendant, eh bien, le RN se réunissait ce week-end à Liévin avec l'envie de savoir, nous dit Sonia Gobry sur place pour RMC.
Le sourire est là, mais Valérie camoufle son stress.
Ça approche, hein. On est
et c'est aussi le brouillard dans la tête de Liliane et Patricia.
C'est compliqué à répondre, on est inquiète quand même.
J'espère en même temps, parce que je voudrais vraiment qu'elle passe, qu'elle puisse se présenter.
Ils le disent du bout des lèvres, mais chez ces militants du Rassemblement National, l'espoir d'une candidature de Marine Le Pen en 2027 est très mince.
Ça passera pas, non?
Malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Tout est fait pour.
Si les cadres du RN adoptent un ton plus mesuré et évitent maintenant d'attaquer frontalement les juges, les militants, eux, crient toujours au complot.
Ça, c'est clair. Je pense pas que la justice soit totalement impartiale en France. Donc c'est quasiment joué, bien sûr.
Ouais, c'est un complot. Pour pas qu'elle puisse se passer.
Mais je sais que le Rassemblement National sera rebondir.
Parce qu'il y a le plan B pour Bardella.
C'est pareil. On est une famille.
Si elle était toute seule, on n'avait rien derrière. Mais heureusement qu'il est là pour tous les gens du RN. Si Marine, malheureusement, elle ne pourra pas passer, ça sera Jordan. Pour tout le monde, c'est comme ça.
Ça sera Jordan. Elle sera derrière lui.
Marine Le Pen l'a promis, elle ne s'effacera pas. Le RN mènera cette campagne en binôme, même si elle doit passer la main à Jordan Bardella.
Et alors le sujet était dans toutes les têtes ce week-end. Édouard Philippe, qui lançait sa campagne à Paris, a critiqué le « en même temps » du RN. Jean-Luc Mélenchon lui a assuré qu'il était persuadé de pouvoir éliminer le RN au second tour de la présidentielle.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et c'est un match complètement fou qu'on a vécu cette nuit entre l'Angleterre et le Mexique.
Et qui vient de se terminer à Mexico par la victoire de l'Angleterre, Edgar Grollo.
Oui, quel match fou des deux côtés. Un pénalty de chaque côté, un carton rouge aussi pour Kwanzaa, le défenseur anglais. Et finalement, ce sont les Anglais qui s'imposent en infériorité numérique. 3-2, un doublé de Bellingham, un but de Kane. Côté anglais, ça continue pour les Three Lions, mais pour les Mexicains, évidemment, c'est une déception immense pour eux, à domicile, devant leur public, dans la capitale Mexico, dans ce stade mythique, le stade Azteca. L'ambiance était incroyable. Et évidemment, elle est redescendue d'un cran depuis quelques minutes.
3-2, donc, cette victoire et qualification des Anglais pour les quarts de finale. Alors, la sensation de la soirée, c'est l'élimination du Brésil, qui a été battu 2-1 par la Norvège avec un doublé de Erling Haaland. Le pénalty de Neymar n'a rien changé en fin de match pour les Brésiliens. Et le mondial qui est secoué aussi, tiens, ça va faire causer. Par ce scandale à la veille du match entre les États-Unis et la Belgique, la FIFA a décidé de blanchir l'attaquant américain Folarin Balogun, qui avait pourtant reçu un carton rouge au match précédent. Sous la pression de Donald Trump, qui a passé un coup de fil au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer la suspension du joueur, la Belgique fait part de sa stupéfaction et le sélectionneur des Diables Rouges, Rudy Garcia, parle d'un 1er avril.
On va en reparler dans le mondial de Virginie tout à l'heure. Étonnant quand même, que étonnante décision, cela dit, de voir le président Trump influer autant, si c'était le cas. Ça vous fait peut-être réagir, comme les matchs de la nuit, l'élimination du Brésil, la qualification des Anglais. Eh bien, vous connaissez le chemin, vous composez le 32-16 ce matin. Merci Quentin. En attendant, c'est Kevin qui est en ligne avec nous dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Kevin.
Bonjour Kevin, comment ça va ce matin?
Ouais, ça va. La nuit a été un peu compliquée. On a un petit peu peur quand même parce que j'habite pas très loin des feux. Ouais. Ça a commencé samedi. Bon, le vent n'allait pas vers la maison. Et là, cette nuit, le vent a un peu tourné et de la maison. On ressent la fumée, on ressent les odeurs. Je suis parti ce matin au boulot et c'est apocalyptique en fait. On sent la fumée. Un peu de brouillard partout,
c'est irrespirable en plus.
Oui, exactement, ça rentre dans les maisons.
Vous avez reçu des consignes particulières, des indications sur le comportement à adopter, des lieux où se rendre s'il le fallait?
Nous, dans notre village, on nous a demandé de bien fermer les fenêtres, de bien fermer les portes, ouais. D'essayer de mettre du linge mouillé entre les portes pour pas que l'odeur rentre. Mais voilà, après, on fait comme on peut, quoi.
Là, le feu, Kevin, il est à peu près combien de chez vous? Quelle distance?
Il est à 5-10 minutes de chez moi.
Ouais, ok.
Ouais. Ouais, voilà.
C'est un peu flippant, hein, Kevin. Dans le sens de votre voix, à 5-10 minutes. Quand vous dites il est à 5-10 minutes de chez moi, on se dit que ça, parfois ça peut aller très vite. Et on salue et on suit d'ailleurs de très près le travail aussi des pompiers. Pour le coup, il y a eu un pompier blessé hier et un civil aussi. Évidemment, on continue de raconter ce travail et cette lutte contre le feu. 4500 hectares sont partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales. Merci, Kevin. Merci d'avoir témoigné au 32-16 et bon courage.
Prenez soin de vous, Kevin. Bon courage.
Prenez soin de vous.
Il est 5h11 sur RMC et dans un instant, c'est l'heure de la solution conso, Géraldine.
On va voir comment on peut faire pour trouver un logement étudiant là pour la rentrée qui approche.
Ah oui, il faut s'y mettre là.
Il faut s'y mettre maintenant.
Mais avant ça, il y aura le choix de la rédaction. Bonjour Victor Joannin.
Bonjour.
Mauvaise nouvelle pour les entreprises que vous nous révélez ce matin en exclusivité, cette nouvelle. Le nombre de défaillances continue de battre des records. Plus de 34 000 comptabilisés depuis le 1er janvier.
Oui, c'est plus 5% par rapport à il y a un an et pour tous ces patrons en détresse. La dernière chance, c'est le tribunal de commerce. Je vais vous raconter ce qui s'y joue.
À tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h12 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil.
RMC, le choix de la rédaction.
Et les entreprises en faillite sont toujours plus nombreuses. C'est une information que vous révèle en exclusivité RMC ce matin. 34 000 défaillances au premier semestre. C'est 5% de plus qu'il y a un an.
Bonjour Victor Joannin.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise.
Pour tous ces patrons au tapis, il y a un passage incontournable. C'est le tribunal de commerce. Alors Victor, vous avez passé toute une journée en immersion au tribunal d'Avignon.
Oui, des dizaines de chefs d'entreprise poussent les portes du palais de justice d'Avignon chaque semaine. Soit parce qu'ils sont convoqués, soit parce qu'ils viennent demander de l'aide pour redresser leurs comptes. On les reconnaît facilement au tribunal, les traits tirés, la mine sombre, le dos courbé comme chargé d'un poids et l'air intimidé par la solennité des lieux.
C'est très dur. Toi, tu es un petit campagnard de ton truc, t'as jamais eu à faire la justice de toute ta vie et tu te retrouves là avec... je sais pas si ça s'appelle la salle des pas perdus, mais si c'est la salle des pas perdus, ouais, là pour le coup, ça porte bien son nom. Hein.
Patrice a 62 ans, il est aujourd'hui contraint de lâcher son imprimerie et de prendre sa retraite pour éponger ses dettes. Il l'avait fondée, cette imprimerie, au début des années 80, une entreprise florissante, jusqu'à 16 salariés, mais à partir des années 2010, changement d'époque.
Un changement d'époque, car le numérique a pris la place du papier.
Mais oui, voilà, et Patrice perd ses contrats, il n'écoute pas son expert comptable qui lui conseille de licencier.
C'était une petite boîte familiale, il fallait prendre des décisions qui étaient drastiques et j'ai pas voulu les prendre parce qu'il y avait des gens avec qui je travaillais depuis 40 ans, j'avais été au baptême, j'avais été au mariage, j'avais été à des anniversaires. Donc tu essayes de tenir et puis voilà. Et au moment, tu te retrouves là, sur Avignon, au tribunal.
Au tribunal d'Avignon, les audiences s'enchaînent. Frédéric sort de la sienne, il vient de demander au juge de liquider sa petite entreprise de carrosserie.
C'est très bien passé, les gens sont très compatissants, très aimables, ils savent bien de quoi ils parlent, ils connaissent bien les problèmes. Et là, bon, là, je vais être quand même avec un liquidateur et après je serai libéré. C'est le mot, hein. sort du tribunal, on est libéré.
Libéré de cette pression permanente, Frédéric repart soulagé d'un poids énorme. Le liquidateur va l'aider à vendre son matériel pour effacer son ardoise. Il a perdu sa boîte, mais il retrouvera facilement du boulot comme carrossier.
Alors Frédéric parlait des juges, ils savent de quoi ils parlent, disait-il. On a l'impression que ce ne sont pas des juges classiques.
Bah, ils portent une robe noire, mais ce sont eux-mêmes en fait des dirigeants d'entreprise qui exercent tous bénévolement, à l'image de Grégory Herbé, expert au comptable basé dans la ville d'Orange.
Je pense que ça c'est important pour le chef d'entreprise de savoir qu'en face de lui, il a des gens qui connaissent les mêmes difficultés, qui connaissent les mêmes soucis, qui ont les mêmes inquiétudes, mais on a aussi un rôle de magistrat avant tout. Et le magistrat, il est aussi là pour veiller et sanctionner les comportements déviants.
Mais il y en a des comportements déviants, des patrons malhonnêtes?
Oui, ça existe, mais c'est une minorité. La plupart de ceux qui défilent au tribunal sont des petits patrons isolés. Et pour eux, c'est trop souvent les 3D, hein, comme on dit dans le jargon. Dépôt de bilan, divorce, dépression. Beaucoup auraient pu, auraient dû venir plus tôt, regrette Aurélie Martinelli. C'est la greffière qui organise toute l'activité du tribunal.
Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, finalement, pour régler les dettes que vous avez et les dettes qui sont exigibles, que vous devez à l'instant T, c'est que c'est inquiétant et que vous devez vous inquiéter et que vous devez vous dire « je vais pouvoir trouver de l'aide ». Au tribunal, parce qu'au tribunal, c'est de l'aide qu'on propose. Voilà, c'est d'abord de l'aide.
Car si le patron pousse la porte du tribunal suffisamment tôt, un juge de la prévention peut l'aider à éviter la faillite. Malheureusement, les défaillances d'entreprises sont à des niveaux records, on l'a dit. Au tribunal d'Avignon, on est à plus 10% sur les 6 premiers mois de l'année.
Plus 10% à Avignon, plus 5% au niveau national. Absolument. C'est ce chiffre que vous révélez ce matin, Victor. Et peut-être que des patrons, des petits patrons, moyens, enfin, peu importe, vont témoigner ce matin. Cette ambiance que vous avez décrite au tribunal de commerce d'Avignon, il y a quelque chose d'assez lugubre, assez sordide, et en même temps, il en va de ce que vous avez engagé dans votre vie, dans votre boîte. Vous avez envie de témoigner, de nous raconter ce que vous avez vécu, peut-être que vous en êtes relevé aussi. 32-16, vous serez en direct avec nous ce matin, n'hésitez pas. Merci beaucoup Victor Joannin, il est 5h17.
Et c'est l'heure des choix de la bande, avec les petites infos qu'on a dénichées dans la presse. J'en ai une pas mal ce matin.
Vas-y.
Mais avant ça, on a accueilli Mathias Luguin quand même.
Mathias.
Salut Mathias.
Bonjour à tous.
Ça va Mathias?
Oui, ça va. Passez un bon week-end.
Ouais. On t'a pas demandé.
Mais je suis content de
ça,
d'avoir.
Plaisir.
Vraiment haut du jeu, Mathias.
C'est trop
facile.
Vas-y, commence Élise.
Allez, je commence avec un chiffre. 9,6 millimètres. C'est la taille du pénis en érection d'un certain Michael Phillips, un Américain de Caroline du Nord qui détiendrait, en tout cas selon ses dires, le plus petit pénis au monde, car la taille que je viens de vous donner, c'est celle en érection. Une forme extrême de micropénis, très difficile à vivre au quotidien, on l'imagine. Même uriner assis est difficile, raconte-t-il. Et ça lui vaut évidemment l'intérêt de la communauté scientifique, notamment de ce chirurgien esthétique très réputé à Beverly Hills. Robert Dorfman a eu vent de la campagne de financement participatif de Michael et a décidé de lui offrir l'opération d'agrandissement du pénis. Franchement, c'est généreux. Hein. Ce sont nos confrères belges de 7 sur 7 qui nous racontent cette histoire. Coût de l'opération quand même l'équivalent de 18 500 euros. Le doc précise qu'il souhaiterait utiliser la technique dite Mr. Big Shot. Ça vous parle ou pas?
Non, mais j'aime bien le nom.
Eh bien, ce sont des injections dans les parties génitales. On attend maintenant de savoir si Michael va accepter cette généreuse proposition.
Ouais, on a tous, tout je voudrais quand même le dire, qu'à la radio, tout le monde a essayé de mesurer avec ses doigts ce que ça fait, 9,6 mm. Ben, ça fait pas beaucoup.
Non.
Non. Et ça doit être dur. On embrasse Michael.
Mathias.
Merci.
C'est dur d'enchaîner.
Allez, c'est cadeau.
Allez, tiens, une histoire de coffre-fort qui fuit. Ça se passe à Hong Kong en juin dernier, une femme qui déclare à la police la disparition d'une très grande somme d'argent liquide, sauf qu'elle ne comprend pas comment il s'est volatilisé, parce que cet argent normalement était sous-clé dans le coffre-fort de sa chambre, et il n'y a aucune trace d'effraction. Alors, les enquêteurs se déplacent, et il y a tout de suite un rebondissement dans cette affaire, puisque l'adolescente de la famille a 13 ans, et elle se dénonce. En fait, elle est complètement accro à un réseau social local, sur lequel on peut suivre des influenceurs, mais on peut aussi, et c'est ça qui est important, leur envoyer des pourboires virtuels, leur acheter des cadeaux, ou aussi se procurer leurs propres produits en live. Alors, pendant plus de 2 mois, en fait, elle a piqué dans la caisse des parents, en ouvrant discrètement le coffre avec la clé. Elle prenait que des petits montants pour pas se faire repérer, sauf que de fil en aiguille, ça commence à se voir, parce qu'elle a atteint quasiment 50 000 euros.
Ah oui.
Ça va vite. Donc on imagine qu'elle a quand même été au moins privée de sortie pour l'été. Alors, les parents,
il y a
plus ou moins une bonne nouvelle, c'est que dans le pays, il y a un petit espoir de récupérer parce que il est possible de demander le remboursement des sommes versées quand c'est fait par des enfants âgés de 8 à 16 ans, sans l'accord du tuteur légal.
Moi, je suis tranquille, ça m'arrivera pas.
Les influenceurs rendent l'argent, quoi.
Ah oui, mais eux, ils ne peuvent rien.
À mon avis, ils vont dire, je ne vais pas rendre l'argent. Hein. Enfin, on suivra le dossier.
Qui va payer?
On suivra le micro-pénis ce dossier,
Tu t'engages, on suivra ce dossier. Moi, il y a un dossier qui est clos, si vous voulez, la Belgique qui est championne du monde. Voilà, déjà. Oui, avant même de jouer son huitième de finale contre les États-Unis, la Belgique championne du monde de décortiquage de crevettes grises.
Mais ça ne se décortique pas, les crevettes grises.
Moi, je ne les décortique pas, mais j'ai fait un peu de... Ah, voilà, j'ai fait un peu de recherche. Figurez-vous qu'il y a des gens qui aiment bien... se fatiguer, hein. Le mondial, ça fait quoi? 9,6 mm, une crevette grise. Beaucoup plus. Le mondial se disputait à Lefrancouc, c'est près de Dunkerque. Le principe, 10 minutes chrono, les doigts qui chauffent et le maximum de crevettes à déshabiller proprement. Et à ce petit jeu, donc, c'est les Belges, hein. Chantal Gosse en tête, 146,5 grammes décortiqués en 10 minutes. Une performance qui est quand même loin du record historique de 186 grammes. On s'en rappelle. Les crevettes sont pesées après l'épreuve, sachez-le. Hein. Et gare au travail bâclé, hein. Les carapaces oubliés, les morceaux de chair gaspillés peuvent coûter des points aux candidats. Bravo Chantal.
Bravo Chantal.
De la part d'RMC. Il est 5h21 sur RMC. Et RMC, très bon réveil à toutes et à tous. Les grands titres à la une ce matin, Élise.
Et 10 000 habitants évacués dans les Pyrénées-Orientales face à l'incendie qui a déjà parcouru environ 4 500 hectares. Bilan humain aussi, hein, déjà 2 blessés, un pompier et un habitant en urgence absolue hier. Le tout dans un contexte de retour de la canicule. Géraldine nous le disait, 16 départements en vigilance orange. L'information de la nuit, ce sont les aveux de Cédric Jubilard qui reconnaît sa culpabilité dans la disparition de sa femme en 2020 dans le Tarn. Information du journal La Dépêche, il aurait transmis une lettre manuscrite à l'un de ses avocats. Et puis le Brésil, sorti par la Norvège en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et le Mexique qui dit au revoir à son mondial, éliminé 3-2 par l'Angleterre. Vous l'avez vécu dans le morning sur RMC.
Il est 5h22.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, Géraldine a ses astuces conso avec à la fin de la semaine la phase principale d'admission de Parcoursup qui sera terminée. Mais bon, si vous savez maintenant où va aller votre enfant, reste une grosse galère, et pas des moindres, hein, trouver le logement.
Ouais, d'autant plus galère que l'offre de logements meublés disponibles a chuté de 24% en un an, selon Logis, un spécialiste de la location meublée en France. Alors déjà, il faut bien choisir son bail. Vous connaissez peut-être le bail étudiant, ça donne droit à une location meublée pour une durée fixe de 9 mois, donc qui est calquée sur le calendrier universitaire. Le dépôt de garantie est limité à 2 mois de loyer hors charge, donc c'est fait sur mesure pour les étudiants. Mais vous pouvez regarder aussi le bail mobilité. Donc là aussi, on est sur une location meublée à 10 mois maximum. Mais il y a un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de dépôt de garantie qui peut être demandé. Donc ça peut être une bonne solution. Et il faut quand même garder en tête qu'un meublé, c'est systématiquement plus cher qu'une location vide. 2 à 6 euros plus cher du mètre carré, selon l'observatoire GH Location. Donc si vous partez sur un cursus long de 3 à 5 ans, ça peut être plus rentable de partir sur un bail classique avec un logement non meublé, quitte à passer par la location de meubles longue durée pour s'équiper.
Et alors comment je fais, Géraldine, pour aider mon enfant à s'installer dans une ville que je ne connais pas?
Alors il faut vérifier avec lui son dossier, déjà pour qu'il soit complet dès le premier contact avec une agence. Format papier, format numérique. Fuyez tout ce qui est petite annonce sur les réseaux sociaux ou Le Bon Coin ou Airbnb. En revanche, il y a un label qui garantit un logement décent avec un loyer modéré. C'est le label Locavise. Là, vous avez des annonces qui sont vérifiées par le Centre Régional des œuvres universitaires, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Demandez avec votre enfant la garantie Visale. Elle garantit les loyers impayés et les dégradations. Ça concerne tous les jeunes de 18 à 30 ans. Il n'y a pas de condition de ressources, hein, il suffit de faire la demande sur visal.fr. Ça va rassurer le futur propriétaire. Vous pouvez aussi faire une demande d'APL et demander le versement en tiers payant direct au propriétaire. Là aussi, c'est rassurant. Et puis, regardez les associations étudiantes de la ville. Vous pouvez les contacter avant de partir. Ça permettra à votre enfant d'avoir une adresse vers qui se tourner en cas de difficulté.
Et pour l'assurance habitation?
Alors, en moyenne, en 2025, la prime d'assurance habitation étudiante était de 86 euros. Wow. Et on peut déjà s'attendre à une hausse de 8% cette année, selon les chiffres lelynx.fr. 45% des étudiants choisissent l'offre la moins chère, mais ce n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'une formule à bas prix peut prévoir des franchises élevées, beaucoup d'exclusions de garantie. Donc il faut bien comparer pour trouver une formule avec quand même un bon niveau de protection, c'est important.
Merci beaucoup Géraldine. La solution conso, c'est à retrouver en podcast sur le site et l'appli RMC.
Vous restez bien sûr à RMC dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demange. Chez vous, au 32-16, à tout de suite.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h26 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
Si le monde est à moi, le monde est à nous.
Il aurait dû monter sur la scène des Ardentes en Belgique ce week-end, mais Booba en a décidé autrement. Une annulation à la toute dernière minute, moins de 24 heures avant le passage sur scène, car le Duc, comme il aime à se baptiser lui-même, refuse de partager la lumière avec des streamers et des influenceurs. Bon, dans cette chanson, il dit que les aigles ne volent pas avec les pigeons. C'était il y a 10 ans, ben, on peut dire qu'il en fait la démonstration. C'est sur Instagram qu'il a annoncé la nouvelle à ses fans. Se mélanger à ça serait un sacrilège. Ça, ce sont donc les créateurs de contenu. Et notamment le streamer Anime, qui a tenu des lives pendant le festival et que B2O avait qualifié de cafard du vide en décembre dernier, après des propos jugés racistes à l'égard de la chanteuse Ronisia. Booba qui mène, vous le savez, un combat contre ceux qu'il appelle les influx voleurs. Il a aussi dénoncé la présence du commentateur de télé-réalité Jerem Star. Dieu merci, j'ai fait ma place, dit-il, et je n'ai donc pas besoin de cautionner tout et n'importe quoi pour survivre.
Mais c'est marrant, il mélange tout. Enfin, c'est pas pareil, les influenceurs et les créateurs de contenu. Après, il y a quand même une galaxie de choses très, très différentes dans tout ça, quoi.
Absolument.
C'est, bon, les aigles ne veulent pas.
On n'annule pas à 24 heures de son passage. Ça, c'est ça,
ouais, pas correct à savoir avant.
Peut-être regarder la
programmation.
Peut-être regarder la programmation avant, oui, c'est vrai. 5h28, on va écouter le meilleur d'Arnaud Demange. Mais d'abord, je vous rappelle qu'on joue. Alors, on n'a pas encore prononcé le mot caché, mais ça ne saurait tarder. J'ai une petite idée, tiens. On va le prononcer d'un instant à l'autre. Si vous entendez un mot qui sort de l'ordinaire, vous envoyez mot par SMS au 73216.
Et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner votre Coffee Bird, la machine expresso nomade d'Aquila.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Le mot caché sur RMC avec la machine expresso Coffee Bird d'Aquila qui vous sert un excellent café vraiment partout. Aquila, vivez l'aventure sans limite.
Allez, on va retrouver le meilleur d'Arnaud Demange comme tous les matins, il est 5h28.
Chaud patate.
Le Paraguay qui a battu l'Allemagne, il faudra se méfier quand même. Hein ? C'est sud-américain, voilà. C'est la grande région avec des sombreros. Vous avez vu, le président du Paraguay a décrété un jour férié pour la victoire. Il a posté sur X, je cite, le Paraguay n'abandonne jamais, jour férié, bordel. Il a vraiment mis ça. Alors, jour férié, bordel, ça veut pas dire que c'est open bar dans toutes les maisons closes du pays. Imagine, sinon, il y a Patrick Bruel, Gérard Depardieu, Gérard Miller qui débarqueraient tous au Paraguay. On vient fêter avec vous. Non, non, c'est un jour férié. Alors, s'ils gagnent la Coupe du Monde, imagine les Paraguayens, ils vont jamais reprendre le boulot. Il y aura la retraite à 35 ans. Alors que nous, c'est le contraire. Faut absolument qu'on gagne, sinon Macron, il va décréter un jour férié en moins. La France humiliée, la France outragée. La France, pas de 14 juillet, voilà. Oh. Alors, non, mais c'est vrai qu'il a un tempérament comme ça. Et même si on avait un cycliste qui gagnait le tour avec 4 jours d'avance, Macron, il serait capable de monter sur le podium pour l'engueuler. Bah bravo, bravo, à cause de toi, tous les Français étaient sur la télé au lieu de et les smartphones au lieu d'être au boulot. Voilà. On a perdu 12 points de PIB. Toi, tu vas pédaler pour faire de l'électricité maintenant, salopard.
Oh.
Et pour plus d'Arnaud Demange, rendez-vous tout à l'heure à 8h20 dans Apolline Matin sur RMC, RMC Story.
La météo, Géraldine Demory, avec 16 départements en vigilance.
Orange, canicule, oui, près de l'Atlantique, de la Vendée, Hollande, également jusqu'au Lot, près de la Méditerranée, des Pyrénées-Orientales, au Gard, avec le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. C'est la troisième canicule déjà de l'année. On attend jusqu'à 39 degrés à Bordeaux, Biarritz cet après-midi, 38 à La Rochelle, Toulouse, Perpignan, Montpellier, 37 à Nantes, 36 à Marseille, 35 à Paris, Grenoble, 34 à Lyon ou Clermont-Ferrand. À Lyon, hein, c'est déjà, ce sera le 21e jour à plus de 30 degrés. Hein, c'est un record. La vague de chaleur qui va se poursuivre toute la semaine avec les températures qui vont monter encore d'un cran demain. Ensuite, on arrivera à un plateau, mais pour le moment, on ne voit pas le bout de cette vague de chaleur.
Il est 5h30.
105.7, le Morning RMC.
Bon réveil et bienvenue sur RMC, c'est l'heure du journal de Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Elise, bonjour à tous.
Jusqu'à 40 degrés attendu ce lundi.
Un nouvel épisode caniculaire, une troisième vague de chaleur en même pas deux mois qui met les nerfs à rude épreuve et qui accentue le risque d'incendie. Une vingtaine de feux sont en cours comme dans les Pyrénées-Orientales où 4500 hectares ont déjà brûlé. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. La troisième étape du Tour de France qui passe dans la région va être adaptée. Et les larmes du Brésil, éliminé de la Coupe du Monde hier soir par la Norvège qui retrouvera l'Angleterre en quart de finale tombeur il y a quelques minutes du Mexique, 3-2.
Et la chaleur est donc déjà de retour.
Après un répit de très courte durée, l'heure est venue de ressortir nos climatiseurs et autres ventilateurs. 16 départements du sud et de l'ouest sont en vigilance orange à la canicule. C'est le cas de la Gironde où l'on attend jusqu'à 40 degrés aujourd'hui du côté de Bordeaux. Un nouveau coup de chaud redouté par les habitants. Reportage Cassandre Brault.
Casquette sur la tête, cachée derrière de grandes lunettes de soleil, Anne se remet à peine de la canicule d'il y a deux semaines.
J'appréhende beaucoup parce que je l'ai très mal vécu, c'est très compliqué pour moi.
Car il a fait jusqu'à 42,5 degrés à Bordeaux, un record absolu pour la ville.
J'ai jamais vécu la chaleur aussi difficilement. Vraiment, c'était éprouvant. Pour moi, c'est le terme vraiment qui ressort, c'est éprouvant et oui, je pense que là, ça va être compliqué.
Comme beaucoup d'habitants de la région, Claire n'a pas réussi à s'équiper en climatiseur, alors elle s'organise.
Se lever un petit peu plus tôt le matin, aérer un maximum avant de partir.
Mais cette jeune active sait que ça ne va pas suffire.
Je m'y prépare comme je peux, mais je sais que je vais pas beaucoup dormir. Ouais. Fatiguée d'avance, en fait. On est toutes fatiguées. Donc, en fait, il faut fuir Bordeaux.
C'est justement ce qu'a prévu Romane, qui a la chance de ne pas travailler aujourd'hui.
On va essayer de trouver une voiture pour partir à la plage, ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est brûlant, quoi. Enfin, il y a pas d'air, donc on respire, mais c'est comme si on était dans un four tout le temps et ne pas aller à la plage, c'est pas possible.
La jeune femme appréhende. Elle a peur que même au bord de l'océan, les températures soient suffocantes.
Une chaleur qui assèche la végétation, couplée au vent. Vous avez là le cocktail explosif propice aux incendies qui continuent de ravager le sud du pays. 7 départements sont en vigilance rouge au feu. Le plus important ce matin se trouve dans les Pyrénées-Orientales. 4500 hectares ont déjà brûlé. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées dans les communes alentours de Trévillac. 2 personnes sont blessées en urgence absolue. Un habitant et un pompier, 3000 soldats du feu au total, sont mobilisés dans le sud afin de lutter contre plusieurs incendies. Une situation loin d'être évidente à gérer, dit le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Motte.
Les Pyrénées-Orientales ne sont pas seules à faire face à une situation très difficile. Cela rend la situation plus complexe, puisque les solidarités interdépartementales ou encore l'allocation des moyens nationaux qui se font habituellement de manière très fluide sont aujourd'hui plus difficiles puisque ces mêmes moyens sont sollicités de toutes parts. C'est l'effet du changement climatique avec la canicule, avec le vent, avec cette sécheresse de l'air.
Et ça brûle aussi dans le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche ou encore la Drôme où plus de 500 hectares ont brûlé autour de l'Edénon. Un feu désormais fixé ce matin mais toujours actif, des flammes qui ravagent tous sur leur passage. Des forêts mais aussi des habitations comme au Canet en Roussillon où l'incendie de la semaine dernière a contraint le chantier naval Katana à fermer ses portes et ses 350 salariés placés au chômage technique. Alexandre Thibault.
Oui, autant de salariés qui ne reprendront pas le travail ce matin. Dans l'entreprise depuis 26 ans, Samy Ducolombier est le représentant du personnel. Il a reçu plus d'une quarantaine d'appels de collègues.
Ils se mettent à pleurer au téléphone, ils se mettent à pleurer en voyant ce désastre, ils sont effondrés. C'est quelque chose qui est très dur à encaisser, quoi. C'est une entreprise qui fait partie de notre famille. Celle qui nous fait vivre depuis toutes ces années.
Si le hangar qui abrite les moules, qui servent à la fabrication des catamarans, le plus important, a été préservé, ça n'est pas le cas des deux autres qui ont été totalement détruits. David Etienne, le directeur général délégué du groupe, n'a pas eu d'autre choix que de mettre les salariés au chômage technique.
Le chômage technique, c'est pas la panacée en termes de rémunération. Et on peut pas gommer le traumatisme de voir un outil de travail partir en fumée. Par contre, on peut rassurer les gens sur le fait qu'ils n'ont pas perdu leur boulot et que c'est pas la fin de l'entreprise. On a des banques, on a nos propres ressources financières.
Et les volontaires pourraient être reclassés temporairement sur d'autres sites du groupe.
Autre conséquence de ces feux, la troisième étape du Tour de France entre Granollers et en Espagne et les Angles qui devraient avoir lieu. Un temps menacé, la décision a été prise de la maintenir. En revanche, le public est invité à ne pas se présenter au bord de la route sur la partie française de l'étape.
Bon, l'épreuve est maintenue. Vous pourrez la suivre sur RMC. On ne se rend pas sur le bord de la route. Donc, vous l'aurez compris, pour les fans du Tour, d'une manière générale, ces incendies, cette situation dans le sud du pays, les Pyrénées-Orientales en particulier, mais ailleurs peut-être, vous témoignez de ce que vous vivez, de ce que vous voyez aussi par ailleurs. Vous le savez, hein, vos infos sur la route peuvent aussi servir à ceux qui arrivent derrière, qui sont à l'écoute d'RMC aussi. On vous attend au 32-16.
Il est 5h35 sur RMC et Cédric Jubilard serait passé aux aveux.
Accusé d'avoir tué sa femme Delphine, disparue en 2020 et dont le corps n'a jamais été retrouvé depuis, le peintre plaquiste qui nie les faits depuis 5 ans reconnaît sa culpabilité dans une lettre adressée à ses avocats. C'est ce que révèle ce matin la Dépêche du Midi. Dans ce courrier, l'homme de 39 ans condamné à 30 ans de réclusion criminelle qui doit être rejugé en appel dans 2 mois reconnaît avoir utilisé sa voiture pour déplacer le corps de sa femme après une énième dispute et réserve les précisions à la justice, notamment sur la localisation du corps de son ex-compagnon. On y revient dans détail à 6h.
Et vous l'avez vécu en direct sur RMC, l'Angleterre se hisse en quart de finale de la Coupe du Monde après une longue bataille.
On a peut-être...
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
On a peut-être vécu le match le plus spectaculaire de cette Coupe du Monde ce matin sur RMC. Victoire 3-2 pour les Anglais, réduite à 10 face au Mexique, éliminé sous les yeux de son public. Les coéquipiers d'Harry Kane retrouveront la Norvège en quart de finale. Tombeur surprise du Brésil grâce à un doublé d'Erling Haaland. Le Brésil s'incline 2-1 et quitte encore une fois la Coupe du Monde de manière prématurée, Aurélien Tiersin.
C'est un traumatisme de plus pour les Brésiliens. L'attaquant Matheus Cunha a les larmes aux yeux après l'élimination.
La frustration est trop forte. On connaît le poids de notre maillot et on essaye de représenter tout le Brésil.
Le Brésil n'a plus atteint la finale depuis 2002. Le capitaine Marquinhos assume.
C'est ma faute comme capitaine, comme les joueurs d'expérience. Maintenant, place à la nouvelle génération. Il faudra les laisser travailler.
Les supporters de la Seleção repartent d'une Coupe du Monde encore une fois très déçus.
La déception est immense. On venait avec joie pour le match, pour gagner, c'est la défaite encore.
Ils n'ont montré aucune fierté pour le drapeau.
C'est aussi la fin pour Neymar en équipe du Brésil après 130 sélections. Son ancien coéquipier Néné le vit mal.
C'est pas la fin qu'on attendait. On était, tu vois, il était très content. On était ensemble hier, avant-hier. Et voilà, je suis vraiment triste pour lui.
En revanche, le sélectionneur Carlo Ancelotti reste et devra tout reconstruire pour le Mondial 2030.
À suivre ce soir le choc entre l'Espagne et le Portugal, 21h sur RMC. Dans la nuit, on suivra Belgique, États-Unis. Les Américains retrouveront leur attaquant Balogun. La FIFA a suspendu son carton rouge sous la pression de Donald Trump, qui a passé un coup de fil au président de l'institution afin de réexaminer la sanction. La Belgique se réserve désormais le droit de faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Et puis Tadej Pogacar qui offre la victoire sur un plateau de la deuxième étape du Tour de France à son coéquipier Isaac Del Toro, Jonas Vingegaard reste en jaune.
Les courses, Thibaut, c'est sur l'hippodrome des Sables d'Olonne aujourd'hui.
18h30, le 2, Jim Dalouette est le favori de la Dream Team AMC. L'outsider, c'est le 9, Global Duty, le 2 et le 9.
Merci beaucoup, Thibaut Texer. Alors moi, j'ai un petit problème, c'est que, sans vouloir vous flagorner, mon cher Thibaut, c'est The Voice, Thibaut. C'est la voix de la matinale d'RMC, quand même. Et là, je sens comme un petit, petit feutre sur la voix. Alors, c'est à vous de nous dire, est-ce que c'est à cause de la clim, hein, parce qu'on est sur une nouvelle phase de canicule qui démarre, ou est-ce que c'est à cause de l'arbitre de Paraguay-France?
Je ne dirai rien.
Non, on dira rien, chacun de se faire son avis. En tout cas, vous n'étiez pas au stade Azteca de Mexico cette nuit, puisque vous étiez là en train de préparer, mais Hugo suit la Coupe du Monde au Mexique, et il nous appelle en direct de Mexico City. Salut Hugo.
Salut.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien.
Je voulais être sûr que vous soyez bien au Mexique, Hugo.
J'y suis bien.
Bon, comment ça s'est passé ce match, Hugo? Racontez-nous.
un peu déçu depuis Mexico, mais c'est vrai qu'il y a un engouement populaire ici incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc ça fait plusieurs années que je suis expatrié, depuis 3 ans bientôt au Mexique, et j'avais jamais vu un engouement populaire autour d'une sélection nationale. Et voilà, les Mexicains aujourd'hui sont déçus, mais fiers de ce qu'a produit l'équipe, et fiers aussi d'avoir montré au monde entier possible d'être tous derrière un pays et de se donner à fond.
Et puis par ailleurs, vu d'ici, Hugo, ils peuvent être fiers aussi, parce qu'on parle toujours des États-Unis, mais c'est quand même États-Unis, Canada, Mexique, ils peuvent être fiers aussi de leur mondial, hein, c'est leur Coupe du Monde, ils ont brillé, ils ont failli passer en quart.
On y a cru jusqu'au bout. On y a cru jusqu'au bout ici depuis Mexico. Malheureusement, ça n'a pas été la fin qu'on espère. Mais ouais, ça a été ça a été un parcours exceptionnel quand même. Avant ce match-là, aucun but encaissé. Ça a été que des clean sheets pour l'équipe du Mexique. Une attaque en feu. Donc ouais, les Mexicains y ont cru jusqu'au bout et très 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 fiers de cette élection mexicaine. Ouais.
Vous tout faites quoi au Mexique, Hugo? Vous bossez dans quel domaine?
Alors, je représente une entreprise française des arts de la table, donc sur l'ensemble du continent, enfin sur l'ensemble du territoire LATAM, donc de Mexico à l'Argentine, en passant par le Brésil, la Colombie. Donc
tous
donc,
ces pays qu'on va éliminer là.
Exactement. Bah, mais maintenant, voilà. Maintenant que le Mexique est éliminé, je me devais de supporter le pays qui m'accueille depuis 3 ans. Ça va être à fond derrière les Bleus et on espère une victoire, ouais. Une victoire finale. Ouais.
Allez, ben Hugo, en tout cas, est aux premières loges pour suivre cette Coupe du Monde. Sinon, il y a RMC, bien entendu. Pour le reste de la planète, les 7 milliards d'êtres humains qui ne sont pas Hugo, il y a l'application RMC. Mais vous, Hugo, en tout cas, vous avez la chance d'avoir vécu ça depuis Mexico. Et merci de l'avoir partagé en direct ce matin.
Merci à vous et bonne journée.
À bientôt, Hugo. Merci à beaucoup. Bientôt, bon courage au boulot au Mexique, parce qu'on est quand même hier soir pour lui. Il va falloir aller dormir et enchaîner demain matin. Bref, il est 5h41.
Et on continue de parler du mondial, puisque dans un instant, c'est l'heure du mondial de Virginie. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour tout le monde. Il va y avoir des cartons jaunes, des cartons rouges. Enfin, évidemment, sauf pour les Paraguayens.
Et puis, comment s'assurer d'avoir assez de fruits et légumes à manger malgré le changement climatique? C'est la problématique à laquelle les agriculteurs doivent faire face. À 5h50, nous serons avec Sébastien Desgorges. Il est semencier en Haute-Saône et il nous dira quel est le secret. C'est le croisement de variétés. Hein. C'est ce qu'il va nous expliquer pour des cultures plus robustes. Vous restez bien avec nous. On revient dans un instant sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h43, très bon réveil à toutes et à tous, à Bandela, Géraldine, Virginie, pour le Mondial de Virginie avec la Coupe du Monde qui est déjà terminée pour le Brésil. Les Brésiliens battus 2-1 par la Norvège en 8e de finale.
Pardon.
Elle attendait son jingle, voilà, je pense, Virginie.
Pardonnez-moi, je les appelle jingle, excusez-moi.
Allez, Fabien, alors,
vous savez quoi? Non, on arrête tout. Moi, j'irai nulle part sans son jingle.
RMC, le mondial de Virginie.
C'est bon, je suis prête. Donc, tout de suite, on se moque beaucoup moins des tonnes de poissons dans les bagages des Norvégiens ou du Viking Road des supporters. Voilà. La Norvège, c'est pas que du folklore, ça n'est pas que l'équipe bis qui a perdu contre la France, c'est l'équipe qui sort le Brésil avec un doublé d'Erling Haaland. Évidemment, il en est à 7 déjà dans la compétition, c'est-à-dire comme Kylian Mbappé et Lionel Messi.
L'équipe de France, elle a retrouvé ses quartiers à Boston après sa victoire contre le Paraguay.
On avait un dimanche tranquille après un samedi soir orageux dans tous les sens du terme. Il y a eu les coups reçus de la part des Paraguayens sur le terrain, puis tout le monde les a vus, sauf l'arbitre, en gros. Et puis ensuite, pour rentrer à Boston, les Bleus ont patienté 2 heures dans l'avion. Non, les Paraguayens ne sont pas venus les empêcher de décoller, mais les orages ont décalé le départ. Comme dit Kylian Mbappé sur les réseaux, une nouvelle longue journée au boulot. Heureusement quand même qu'on n'a pas tous des collègues aussi agressifs que les Paraguayens, hein, pour le métro boulot dodo.
C'est qui le Paraguayen de la rédac, hein?
On peut pas dire.
Attends, on va réfléchir. La Fédération française de foot va demander l'annulation du carton jaune de Michael Olise.
Un carton pris dans le temps additionnel interminable de 8e de finale. L'arbitre l'a infligé à Michael Olise pour une altercation avec Mathias Galarza. Oui, sauf que les images montrent bien que le numéro 11 des Bleus ne touche absolument pas son adversaire. Il met son doigt devant sa bouche pour lui dire de se calmer. J'ai déjà vu plus violent comme geste. C'est important cette réclamation parce que imaginez que Michael Olise prenne un autre carton jaune contre le Maroc en quart de finale et que la France se qualifie pour les demi, bah lui il pourrait pas jouer cette demi-finale. On a déjà sa chanson, on peut pas nous gâcher la fête. Hein.
Les Français, ils parlent anglais. Bonjour. Et ils enchaînent les pastilles. Bientôt sur les Champs-Élysées, Michael Olise. On double.
Voilà. C'est vrai qu'elle est facile, on s'y attend.
Elle est géniale quand même. Bon.
Elle est quand même géniale.
Bah, on y pense depuis le début, j'attendais qu'elle arrive.
Évidemment, c'est comme pas un carton jaune qui va nous saper le tube de l'été. Attention aussi, hein, parce que Manu Koné et Bradley Barcola ont la même épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Et alors Virginie, apparemment maintenant on peut prendre un carton rouge sans être suspendu le match d'après.
Oui, l'attaquant américain Folarin Balogun pourra bien jouer le 8e de finale des États-Unis contre la Belgique la nuit prochaine, alors qu'il a pris un rouge contre la Bosnie en 16e de finale. La FIFA a été très indulgente et le sanctionne d'un match de suspension avec sursis pendant 1 an. C'est quand même très étonnant comme décision. C'est un peu la Coupe du Monde à la maison. Hein. Non, ça, c'est à nous. C'est à nous. D'ailleurs, Samuel Umtiti, on le rappelle, casse la démarche sur RMC pendant toute cette Coupe du Monde. En fait, la presse américaine et notamment le New York Times dit que Donald Trump a passé lui-même un coup de fil au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour obtenir de la clémence.
Bah
ce qui serait évidemment une ingérence. La Belgique se dit stupéfaite par cette décision de la FIFA et pourrait faire appel au tribunal arbitral
si
du sport.
Si c'était avéré, ce serait même scandaleux.
Ce serait même scandaleux, effectivement.
Désiré Doué, lui, fait des échanges avec Neymar.
Ouais, nous, pendant la Coupe du Monde, on échange des cartes Panini, comme ça. Bah, Désiré Doué, lui, il échange des maillots dédicacés avec Neymar, chacun son truc. C'est le Brésilien idole de celui qui a provoqué le pénalty pour les Bleus samedi soir, qui avait d'abord fait envoyer un maillot à Désiré Doué. Samedi, le joueur du PSG lui a donc rendu l'appareil avec ce mot « Pour mon idole, avec toute mon affection
oh. ». Un bon papa, voilà qu'il y a meilleur au monde.
Oui, ça va mettre du baume au cœur de Neymar en larmes lors de l'élimination du Brésil. Il a confirmé qu'il prenait sa retraite internationale.
Et alors, il y a un point commun entre Lionel Messi et Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde. J'imagine que c'est qu'il marque beaucoup de buts, non ?
Oui, alors 7 chacun depuis le début de la compétition, mais c'est pas le seul point commun. Ça, c'est Opta qui observe tout, calcule tout et fait des stats sur tout, qui a compté. Les joueurs, les deux joueurs passent 50% de leur temps sur le terrain à marcher, 50% à courir. Oui, les autres courent plus.
Et 50% à esquiver les gifles des Paraguayens.
Voilà, c'est ça. Les autres courent plus, mais ils marquent moins. Alors, si Kylian Mbappé continue à marcher la moitié du temps et à marquer autant, j'ai envie de lui dire qu'il marchera jamais seul.
J'ai fait une blague à Virginie Fulpin. C'est pas la chanson qu'elle avait prévue. Allons-y, il marchera jamais seul.
C'est pas possible, hein.
Je suis un peu taquin, comme ça. J'ai vu votre chronique hier soir. Je me suis dit, tiens,
allez,
on va lui faire une petite blagounette.
Mais c'est toi le paragouillon de la rédaction, en fait.
On l'a trouvé.
Harceleur.
Mais d'ailleurs, en fait, ce matin, j'imagine qu'on va parler que de ça à la machine à café au boulot. Vous voulez revenir sur ce match de samedi soir. Tout a été dit, peut-être. Ou alors, il manque que votre coup de fil à vous. Au 32-16, sur le WhatsApp RMC 06-12-424-424. Sans vouloir vous flagorner, votre analyse m'est chère. On vous attend.
Il est 5h49. Et je vous rappelle qu'on joue ce matin au mot caché, mot prononcé très très récemment par Mathieu. Si vous l'avez identifié, vous envoyez mot au 7-32-16 et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner votre Coffee Bird. C'est la machine expresso nomade d'Aquila. Vous pourrez l'emmener partout cet été en voiture, en rando, à la plage. Mot au 7-32-16. Il est 5h49.
Un nouveau titre de Beyoncé, dévoilé ce week-end, Morning Dew. Et c'est le premier inédit de la diva depuis 2 ans, depuis son dernier album. La chanson a été publiée samedi, un titre travaillé entre autres avec Pharrell Williams. Coup d'envoi d'un compte à rebours en fait, 60 jours avant le 4 septembre. D'abord c'est le jour des 45 ans de Beyoncé, mais aussi le jour où sera réédité son album B-Day, dont vous vous souvenez peut-être.
Comment l'oublier ?
Ah oui, ça date un petit peu. Alors pour accompagner ce nouveau titre, Beyoncé a également dévoilé une vidéo en noir et blanc montée à partir d'images d'archives tournées en 2007. Morning Dew donc, qui figurera sur la réédition de B-Day, apparaître à la rentrée. H50 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Les grands titres à la une ce matin. Avec
et à la une, ce très gros incendie dans les Pyrénées-Orientales. Un feu qui a parcouru 4500 hectares de végétation. 10 000 personnes ont été évacuées. Et ça a même des conséquences sur la troisième étape du Tour de France. Pas de public dans les 40 derniers kilomètres. La canicule, elle, s'installe à nouveau. C'est la troisième en 3 mois. 16 départements ont été placés en vigilance orange. Et puis à la Coupe du Monde, le Brésil a été sorti par la Norvège de 2-1 et le Mexique dit au revoir à ce mondial qu'il organise. Le Mexique éliminé 3-2 par l'Angleterre.
Il est 5h51.
RMC à votre service.
Alors, face au changement climatique et aux vagues de chaleur qui mettent les cultures à rude épreuve, les agriculteurs sont contraints de s'adapter. Et la solution que certains ont choisie, c'est de s'intéresser directement aux variétés de fruits et légumes pour en créer de nouvelles dites plus robustes.
Bonjour Sébastien Desgeorges.
Oui, bonjour.
Vous êtes paysan semencier des jardins de Vauvenise à Bonnevent. Véloreille, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est en Haute-Saône.
Ouais, c'est tout bon.
Parfait. Et alors, vous représentez à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté le projet PEPS, Population Évolutive Présélectionnée, c'est-à-dire en gros le croisement de variétés de légumes. Comment ça marche? Comment vous êtes arrivé à cette solution finalement?
Ouais, bah alors du coup, on dit PEPS, c'est donner du PEPS aux légumes.
Voilà. Bah, j'avais eu bon sur tout le début, puis je me
suis
loupée.
Sur toutes les lignes.
Donc, j'aime bien l'idée PEPS.
C'est ça, donc nous sommes semenciers, donc producteurs de graines, maraîchères, maraîchers, et on crée un nouveau type de graines qui répond à nos besoins et qui sont adaptées à notre terroir, à nos pratiques. Aujourd'hui, la majorité des graines, les semences qui sont utilisées par les agriculteurs, sont standardisées. Et seules, malheureusement, elles ne répondent plus à tous les défis auxquels nous sommes confrontés, en fait, comme le changement climatique qui est de plus en plus rapide, les apports en eau restreints, les sols qui sont soit diminués, soit pollués, etc.
En fait, c'est du métissage.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur des variétés qu'on a à notre disposition, de les mélanger entre elles pour créer des nouvelles populations de légumes qui vont être plus résistantes. Donc, par exemple, on va mélanger des nombreuses variétés aux qualités complémentaires, le goût, la résistance à la chaleur, la conservation. Ensuite, les plantes se croisent naturellement grâce aux insectes pollinisateurs ou nous, on va faire des croisements dirigés manuels. Ensuite, les années passant, on observe ce qui se passe. On va sélectionner les meilleures plantes, les meilleurs légumes. Et année après année, on va sélectionner les meilleures graines pour pouvoir les reproduire.
Est-ce que vous avez un exemple concret d'une variété de fruits ou de légumes que vous avez créé récemment?
Tout à fait. Alors du coup, on a ce terme de variété qui pose problème, puisque nous, en fait, la variété, elle est fixée, elle est restreinte dans un catalogue défini, et nous, on va créer une population plus large. Mmh. Mais en effet, on va par exemple croiser une multitude de variétés de carottes différentes. Vous savez qu'on a des carottes qui sont oranges, violettes, blanches, qui ont des caractéristiques et des formes différentes. On va mélanger toutes ces carottes ensemble, choisir le meilleur pour notre usage. Nous, on s'en fiche en fait de la couleur de la carotte. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit mangeable et qu'elle se conserve bien l'hiver, par exemple. Donc, on a des projets. Voilà.
Non, mais en fait, pardonnez-moi, mais vous allez chercher des caractéristiques chez une plante, puis une autre, puis vous mélangez, etc. Mais en fait, s'il faut attendre à chaque fois une année pour avoir une génération suivante, il va falloir des décennies pour s'adapter.
Et oui, c'est pour ça qu'on travaille en collectif. En effet, la création d'une nouvelle population de légumes, ça prend entre 5 et 10 ans. Et ça, il faut arriver à le financer, en fait. Et souvent, les paysans le font gratuitement. Ils le font à côté de leur métier, en plus, parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a du mal, par exemple, à produire des pastèques ou à produire une tomate avec ces coups de chaud là qu'on subit. Donc, du coup, on se met en collectif et on se met à bosser. Et nous, on a dit, il faut qu'on trouve du support pour pouvoir rémunérer les paysans et les paysannes.
Et ils vont coûter combien ces super fruits et légumes?
Ah ben en fait ils vont coûter comme les autres en fait, exactement
ni
comme les autres.
Ni plus ni moins.
Ni plus ni moins, le tout c'est d'avoir à manger en fait. Là on travaille vraiment sur un projet de fond qui est vital, qui est ce qu'ils appellent l'autonomie alimentaire locale, parce qu'aujourd'hui on va dépendre de logistique assez compliquée, assez éloignée, et nous on essaye de relocaliser de la production, pour avoir à manger demain, malgré ces changements climatiques.
Merci beaucoup Sébastien Desgeorges. On rappelle le projet PEPS. Merci d'être venu nous expliquer ce que vous faites chez vous en Haute-Saône, justement à la recherche des variétés de demain. Bah, prenez un petit coup d'avance, hein. S'il faut 10 ans pour une variété, visez 20 ans, parce que ça va très très vite en ce moment, on l'a constaté sur le climat. Merci beaucoup Sébastien Desgeorges d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin.
Il est 5h55 et tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
5-7, le Morning RMC.
Et à tout moment en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes.
Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Cette semaine, Donald Trump a publié sa déclaration de patrimoine. Et alors, c'est stupéfiant. Sa fortune a triplé depuis le début de son deuxième mandat.
Et oui, en moins de 2 ans, le patrimoine de Donald Trump est passé de 2,3 à 6,5 milliards de dollars. Cet argent, il l'a principalement tiré de crypto-monnaies dans lesquelles il a investi, ou d'ailleurs qu'il a lui-même créé. Et comme par hasard, Apolline, le président Trump a fait voter beaucoup de lois en faveur de ces monnaies numériques. Une confession des genres qui n'est pas passée inaperçue aux États-Unis.
Ça fait de lui le président le plus riche de l'histoire des États-Unis?
Oui, alors même si pour être honnête, il avait déjà amassé une grosse fortune avant d'être élu. Mais aux États-Unis, avoir des présidents riches, c'est plutôt la norme que l'exception. Et ça a commencé tout de suite, hein. Le tout premier président américain, George Washington, était richissime. Quand il a été élu en 1789, il avait déjà un patrimoine équivalent à 500 millions de dollars d'aujourd'hui. Et l'origine de cet argent n'était pas reluisant, puisque Washington avait une plantation de centaines d'hectares, une plantation qui était exploitée par plus de 300 esclaves.
John Fitzgerald Kennedy, lui aussi immensément riche.
Oui, et d'ailleurs, après Donald Trump, c'est même celui qui avait le plus gros patrimoine, environ 1 milliard de dollars, une fortune qui lui venait de sa famille, mais là aussi, c'était pas forcément un cadeau. On lui a beaucoup reproché d'avoir autant d'argent, puisqu'on soupçonnait les Kennedy d'être liés à la mafia de Chicago.
Est-ce qu'il y a eu des présidents pauvres ?
Alors, il y en a eu, et c'était loin d'être les plus mauvais. Hein. Un des plus grands présidents américains, en tout cas un des plus populaires, c'est Abraham Lincoln. Hein. Il a été élu en 1861. C'est à lui qu'on doit l'abolition de l'esclavage. Il était tellement pauvre qu'il était né dans une cabane. Il n'a jamais fait fortune. Sa carrière, il la devait intégralement à son talent. Comme quoi, c'est possible.
Il y a aussi les présidents qui ont fait fortune, mais alors après leur mandat.
C'est une autre spécialité. Et l'exemple typique, c'est Bill Clinton. Il venait lui aussi d'une famille assez pauvre de l'Arkansas. Avant de faire de la politique, il était prof de fac, donc un métier pas si bien payé. Quand il est élu en 1993, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas riche. Mais une fois qu'il a quitté la présidence, alors là, il a amassé une fortune grâce à des conférences. Son patrimoine actuel est estimé à 55 millions de dollars.
Ah oui, donc ça y est, il s'est reconstitué. Mieux. Est-ce que les présidents américains sont bien payés pendant le mandat ?
Alors oui, plutôt évidemment. Leur salaire annuel, c'est 400 000 dollars bruts, soit environ le double du président français. Mais alors attention, il y a une grosse différence. Les présidents américains vivent dans un appartement de fonction à la Maison Blanche, ok? Ils ont du personnel, évidemment, mais ils doivent payer toutes leurs dépenses personnelles. Donc, ils payent leur nourriture, leur dentifrice et même leur papier toilette.
Eh bien, merci Arthur Chevalier.